Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à midi. Bonjour Gilles,
bonjour
Rémi.
Bonjour Valérie.
Tout va bien?
Bonjour Rémi.
Vous êtes en forme?
Et bah bonjour,
écoutez, à partir de 11h, on va parler du foot féminin. On en a parlé. Bah, est-ce qu'on a le droit de dire, qu'on n'a pas forcément envie de regarder ou que c'est un foot qui nous intéresse moins? Alain Finkielkraut, vous nous avez passé le son hier, a fait beaucoup réagir. Vous en avez entendu parler avec Patrick Roger ce matin. On va parler de notre sondage IFOP Fiducial, le retour de Marion Maréchal-Le Pen, plébiscité par 38% des Français. C'est pas une majorité, mais c'est un chiffre qui est en augmentation. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez qu'elle revienne sur le devant de la scène politique? Et puis le 80 km/h, fallait-il remettre toute la France à 90 et aménager ou laisser la patate chaude au département? On en parle avec vous, 0826 300 300. Et puis entre 10h et 11h, eh ben, les médias, on aura la gagnante de The Voice, Whitney, avec nous au téléphone. Et puis on est très musique aujourd'hui puisqu'on aura également Alain Chamfort pour un documentaire qui lui est consacré ce soir sur France 3. Alain Chamfort, le pape de la pop chic, magnifique documentaire passionnant.
Merci.
Et on a vraiment vraiment beaucoup aimé et on est ravis de le recevoir avec nous sur Sud Radio. Et puis on aura Gérard Collard pour les livres évidemment. Et on commence avec les audiences de Rémi et les audiences de The Voice justement.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors, le carton.
Eh bien écoutez, aujourd'hui, Valérie, c'est assez particulier parce que le carton, c'est aussi le gagnant. En fait, TF1 arrive en tête des chaînes nationales avec The Voice. 3 355 000 téléspectateurs et 16,8% de part de marché pour la finale de The Voice. Bon, c'est 800 000 de plus que samedi dernier pour la demi-finale, mais c'est surtout le plus bas score historique pour une finale. 1 100 000 téléspectateurs et 5 points de part de marché de moins que l'an dernier. 1 700 000 de moins qu'il y a deux ans.
Je rappelle, c'est la plus basse finale, non? C'est ça, c'est le plus bas score,
Historique, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Je rappelle que l'audience pour la finale de la première saison était de 7,5 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire que là, c'est moins de la moitié. Bon, bah, c'est une très mauvaise saison pour le télécrochet de TF1.
Mais TF1 est quand même en tête.
Devant M6, 2 518 000 téléspectateurs et 11,9% de part de marché pour la série 911-911. C'est le numéro qu'on appelle pour les urgences aux États-Unis. C'est une série américaine. 200 000 de plus que la semaine dernière. Bah, la série fonctionne très bien pour M6. Voilà, pour les pronostics.
Oui, ça fait c'est ce qu'on avait dit, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ce score-là à M6.
Leur série du jeudi, voilà, c'est une des seules choses qui fonctionne pas mal. Ouais, ouais, tout à fait.
Le Gadin.
Le Gadin, je l'ai dit, donc du coup, c'était celui-là.
Oui, c'est plutôt décevant pour.
C'est très décevant pour TF1.
Voilà. Et puis la surprise.
La surprise, ce sont les audiences des retransmissions des cérémonies du débarquement. France 2 a dévain. Donc TF1 et France 2 rediffusaient ces cérémonies. France 2 a devancé TF1 avant 13h. 1 284 000 téléspectateurs pour France 2 avec Julien Bugier de 8h à 13h15.
Ouais.
Et 1 124 000 téléspectateurs pour TF1 de 8h à 13h. TF1 repasse devant entre 13h et 13h51. C'est le 3 712 000 téléspectateurs pour le spécial 75e anniversaire du débarquement avec Jean-Pierre Pernaut. Devant France 2, 2 52 000 téléspectateurs pour Marie-Sophie Lacarré. Et puis à nouveau France 2...
La Carreau.
Ah, pour une fois, c'est moi.
Oui. Et à nouveau, France 2 légèrement devant TF1 l'après-midi. D'accord. 858 000 téléspectateurs pour France 2 entre 14h et 18h30. 840 000 pour TF1 entre 14h et 18h10. Les deux chaînes ont consacré l'intégralité
de leur grille
au 75e anniversaire.
Ouais.
Voilà, puis bon, du côté des talk shows d'Access, c'est Touche pas à mon poste, légèrement en tête hier sur C8. 1 246 000 téléspectateurs pour Cyril Hanouna. Il recevait Laurent Baffy et Richard Orlinski, le sculpteur
qui était ce matin chez Patrick Roger et Cécile de Ménibus, voilà, et qui va être à l'Olympia
avec au mois de juin prochain. Show. Devant Quotidien sur TMC, 1 239 000 téléspectateurs pour Yann Barthès, qui recevait Alexandre Jardin et Nathalie Yannetta. Puis C'est à vous est en troisième position. 1 024 000 téléspectateurs pour Anne-Elisabeth Lemoine, qui recevait notamment Alain Finkielkraut.
Après,
qui revenait sur la polémique au sujet de la Coupe du Monde féminine de football. Après le buzz qu'il avait suscité sur CNews.
Merci Bonnie Tyler.
Allez, on va passer à notre coup de fil du jour, à Whitney. Bonjour Whitney.
Bonjour.
Vous
Bonjour.
Êtes la grande gagnante Bonjour. De The Voice. C'était hier soir sur TF1, on l'a dit. Alors ce matin, vous vous réveillez dans quel état d'esprit ?
Je suis contente, mais je suis fatiguée.
Ouais, ça a été dur de vous lever, là ?
C'était très, très dur.
Ouais, vous avez fait quoi hier soir ?
Bah, rien de spécial, j'étais juste fatiguée de ma journée, quoi.
Ouais, d'accord. Donc vous avez gagné avec 37,9% des voix. On va écouter votre chanson. Quelle voix incroyable.
Moi, je pense que c'est ce duo qui a fait basculer les votes. Est-ce que vous pensez que ce duo a compté vu comment les scores étaient serrés, Whitney? Parce qu'il s'est passé un moment magique entre vous et Mika, non?
Oui, parce qu'en fait, mon solo, on va dire que je connaissais, mais il fallait que je chante comme si je devais chanter, alors que le duo avec Mika, on a partagé quelque chose. J'avais l'impression de voir comme si c'était pas chanter avec mon père et lui avec sa fille, c'était spécial.
Mais moi, je pense que c'est un joli moment d'émission.
Il y avait aussi le duo avec Aya Nakamura qui était... On avait l'impression que vous étiez un peu impressionné, non, Whitney?
C'est normal, je suis impressionné.
Ouais.
Après toutes les fois où j'ai fait des vidéos Snapchat avec sa musique dessus, c'est normal que ça fasse bizarre de l'avoir en vrai.
Est-ce que vous y croyez enfin à votre victoire ou pas? Parce que hier soir, vous aviez du mal à y croire.
Toujours pas.
Toujours pas.
Bah, on va vous passer quelque chose. Vous allez voir, ça a bien eu lieu.
Cher talent, cher coach, ça a été extrêmement serré. Toute la production me l'a dit. Ça s'est joué entre deux talents. Et ça n'enlève en rien au mérite et au courage des autres. Le gagnant de The Voice, saison 8, est une gagnante, c'est Whitney !
Il se passe quoi à ce moment-là dans votre tête ?
Rien, du vide.
Du vide, bon.
Parce qu'en fait, je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Du coup, c'est toujours bizarre. Moi, je m'en doutais absolument pas. Après, je suis quelqu'un qui est très naïf de base, mais j'étais pas prête à ça, parce que je sais qu'il y a mon village derrière, mais mon village, ils sont 3900 et pas des millions, tu vois.
Et qui était venu d'ailleurs sur le plateau.
Ouais.
Oui, aux auditions aveugles. Bon, une partie, hein, on n'était pas beaucoup.
Est-ce qu'il vous prépare tout le village à faire une fête ce week-end? Est-ce que vous savez s'il y a des choses qui sont préparées?
Je ne sais pas encore. Je sais juste qu'hier, il y a un écran géant dans la ville, enfin dans le village, où il y a tout le monde qui a pu regarder. J'ai jamais vu autant de gens dans le village.
Ouais. Peut-être rappelez-nous un petit peu, vous avez fait des tonnes et des tonnes d'auditions, hein, c'est ce que vous avez dit, j'ai fait 150 millions d'auditions avant d'en arriver là. Vous avez toujours eu envie de chanter, vous avez toujours chanté?
Oui, j'ai toujours chanté, j'ai fait ma première scène à 3 ans.
Ah oui, effectivement, c'est très, très précoce. Et là, aujourd'hui, enfin demain, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez enregistrer un album, vous allez faire quoi? Il va se passer quoi?
Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas m'arrêter là.
On espère, parce que vous avez une voix assez incroyable, Rémi.
Alors, en fait, c'est que la deuxième fois que c'est une gagnante. L'année dernière, c'était Maëlle. Cette année, c'est vous. Donc, vous pensez que ça y est, les filles prennent le pouvoir dans The Voice?
Je pense que le girl power a sa place maintenant.
Voilà, girl power. Alors, on a une auditrice, Nicole, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Nicole. Nicole, vous êtes là? On a un bug. Elle avait regardé The Voice, elle voulait vous parler.
Moi, je voulais vous demander, est-ce que des fois, vous ne vous dites pas, comme votre papa vous appelait Whitney, parce qu'il est fan de Whitney Houston, votre papa était aussi la vedette de la soirée d'hier, est-ce que finalement, ce n'est pas lui qui vous a conditionné à être chanteuse?
Des fois, j'ai marre d'y penser, mais en fait, mon père, il ne m'a jamais demandé de chanter. J'ai commencé à chanter avant même que je comprenne comment je m'appelais. Parce que j'avais 3 ans, tu retiens ton prénom, mais voilà. Et en fait, en regardant la Star Academy, j'avais 3 ans, enfant hyperactif, qui s'est enfin calmé devant une émission. Et j'ai dit à ma mère, quand je serai grande, je vais faire la Star Academy. Voilà, ça, petite histoire.
Ah oui.
Bon, et alors, même si c'est un peu le matin, est-ce que vous pouvez nous fredonner une petite chanson de Whitney Houston, rien que pour Sud Radio?
La musique des chaos. Mais c'est le début du coup, parce que le reste, je suis pas sûre.
Alors le début, juste
allez-y,
comme ça.
Allez-y, juste pour entendre votre voix ce matin.
Here I stay. dans l'oubli. Yahweh, toi,
bah, bravo, ah,
bravo, hein. Bravo, bravo, bravo.
Le matin, c'est, à froid, ouais, sans chauffer, c'est très gentil.
Alors, je crois qu'on a, on a retrouvé Nicole. Ah. Nicole, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez regardé The Voice hier. Est-ce que vous êtes...
J'ai regardé The Voice, je pars à... Oui, voilà, j'ai suivi surtout... j'en ai suivi deux, en fait, Clément et Whitney. Et je suis ravie que Whitney ait gagné cette battle, cette bataille. Ouais. Et je suis ravie à double sens parce que elle se bat contre ce handicap ou cette maladie. Et elle a des projets incroyables et la vie devant elle. Et moi, j'ai 80 ans, j'ai aussi une maladie incurable. Et j'ai des projets fous. J'ai un projet fou. Donc, elle aussi, à 20 ans, il faut qu'elle ait des projets fous pour pouvoir arriver à son but qu'elle s'était fixé quand elle avait 3 ans, quand elle chantait. Voilà. Donc, je lui fais... C'est mon élixir de vie, Whitney.
Ah,
Whitney,
super.
C'est mon élixir de vie. C'est une image de vie. On ne dit plus maintenant. Il ne faut plus dire maintenant. Elle donne une leçon de vie. La leçon, ça n'existe pas, c'est négatif. Mais une image de vie, c'est merveilleux. Donc, ouais. Whitney, c'est mon élixir de vie.
Super. Ouais. Vous avez 80 ans, Nicole ?
Ouais. Vous avez oui, une... dans 3 jours. Dans 3 jours.
Oh là là, vous avez une voix, mais franchement, et une pêche.
J'ai un projet fou. Ouais. J'ai un projet fou pour le mois de septembre, donc je m'en fous. 80 ans, malade.
Votre projet ? Si c'est secret, ne le dites pas.
Allez, on va le dire. Tant pis, Saint-Jacques de Compostelle, 1000 km. Malgré mes métastases, malgré mon cancer, je m'en vais. Je fais comme Whitney. J'ai une envie, j'ai un but, j'ai un projet, j'ai un but. Et ben, pourquoi pas le faire? C'est pas parce
formidable.
Qu'on on est malade ou qu'on a un handicap qu'il faut pas suivre ses buts, ses projets. Parce que
super.
C'est le voilà, c'est le but de la vie. On est en vie, ben qu'on en fasse quelque chose de la vie.
C'est formidable, voilà. C'est formidable ce matin ce que vous dites, Nicole. Et beaucoup d'auditeurs nous disent, elle est très touchante cette auditrice. C'est ce que dit Zabzab. Formidable. Merci beaucoup, Whitney. Ça vous touche ce que vous venez d'entendre?
Bah bien évidemment, parce que je suis venue au final pour passer un message de courage et entendre ça, ça me touche particulièrement. En tout cas, Nicole, je te souhaite tout mon courage du monde et tu vas aller faire tes 1000 km, je suis derrière.
Et ben voilà. Merci beaucoup, Whitney, d'avoir été avec nous.
Et encore bravo.
Et on va vous suivre. Et on vous souhaite effectivement beaucoup de chance dans la suite de votre carrière. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, dans un instant avec le chiquissime, l'élégant, le discret, très classieux Alain Chamfort, voilà, Gainsbourg. Absolument. On se retrouve avec Alain Chamfort dans un instant, si vous voulez lui parler, réagir. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Alain Chamfort, le pape de la pop chic. Bonjour Alain Chamfort,
bonjour.
D'être avec nous. C'est un documentaire qui vous est consacré ce soir sur France 3, 22h50, c'est un peu tard. On a adoré ce documentaire, franchement, et c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir, parce que vous êtes quelqu'un de plutôt secret, plutôt discret. Alain Chamfort est un chanteur paradoxal, un homme réservé qui a bizarrement passé sa vie à se montrer. C'est ce que dit le début du documentaire. Pourquoi vous avez accepté...
Il me semblait que l'intention de Laurent Fléchère, le réalisateur, était assez claire, elle était assez. J'avais vu des sujets qu'il avait traités précédemment, qui n'étaient d'ailleurs que c'était la première fois qu'il s'attaquait à quelqu'un de la chanson ou même à un artiste. Et je trouvais qu'il avait un regard très humain sur la plupart des choses qu'il traitait, avec une quête comme ça d'humanité. Et donc, ça, à partir du moment où je sentais que ça allait respecter cet aspect-là, je lui ai fait confiance.
Alors, il y a des images rares, des témoignages rares, celui de Jacques Dutronc.
Oui.
Jane Birkin aussi, qui parle de vous. Mais c'est vrai que Jacques Dutronc, lui aussi, très discret.
Il ne s'exprime pas souvent.
Il ne s'exprime pas souvent. C'est dire le lien qu'il y a entre vous, que les gens ne connaissent pas forcément.
Oui, c'est-à-dire qu'on a passé du temps ensemble à une période où on était tous les deux très jeunes, parce que moi j'avais 17 ans et lui quelques années de plus. Et c'est des années qui marquent, quoi. Donc c'était en plus les années de sa reconnaissance artistique, où il est devenu, où il a connu ce plein succès et tout. Et puis il était très proche de nous, de ses musiciens, et on passait notre temps ensemble, en tournée, voilà, on vivait ensemble totalement, donc ça a créé des liens entre nous, même si après, avec le temps, on s'est beaucoup moins vus. Il en est resté toujours beaucoup d'affection.
Il reste quelque chose, la preuve, c'est qu'il a accepté de témoigner.
Je vais vous raconter notamment la scène incroyable, c'est que, on a une peine à imaginer, c'est que vos parents demandent à rencontrer les parents de Jacques Dutronc, parce que vous êtes vous jouez les claviers pour lui.
Ils souhaitaient me récupérer comme
vos parents, et vos parents veulent aller voir. Et Jacques Dutronc raconte que lui, il est halluciné, ses parents sont hallucinés. Vous étiez présent.
J'avais 17 ans, donc j'étais dépendant de mes parents. À l'époque, on était majeur à 21 ans. Donc, et alors, c'était quand même un pas à franchir assez important pour moi, parce que ça sous-entendait que je devais m'organiser pour poursuivre mes études.
Mais vous vous rendez compte de l'évolution culturelle aujourd'hui, vous imaginez demander à rencontrer à 17 ans.
Oui, c'était particulier, mais parce que mes parents n'étaient pas du tout de ce monde-là et qu'ils avaient un peu envie, ils voulaient savoir de quel monde appartenait Jacques Dutronc, et la meilleure façon de le savoir, c'était de rencontrer ses propres parents. Donc ça a été un moment comme ça un peu particulier, mais tout le monde était charmant et puis ils étaient rassurés, surtout après, et qu'ils ont accepté que je fasse le pas de semi-professionnel, continuer mes études et en même temps accompagner Jacques Dutronc.
Alors dans le documentaire, on voit bien la première partie de vie d'Alain Chamfort et la seconde
chanteur à paillettes.
Voilà, et si on imagine qu'aujourd'hui les chansons sont marketées et qu'on fait des chanteurs, des produits, ça montre qu'il n'y a rien de nouveau, puisque on voit qu'à votre époque, c'était déjà le cas, et que vous deviez une chanson à Minette. Je n'ai pas réussi à voir dans le doc si cette période-là était plutôt une période heureuse, parce qu'il y avait des choses euphoriques autour de vous, ou si vous étiez profondément malheureux.
Ah non, je n'étais pas profondément malheureux, bien entendu. C'est-à-dire que tout au début, quand le succès arrive et que vous êtes porté par le succès et que vous pouvez d'un seul coup, vous avez une sorte de reconnaissance, de notoriété et que vous avez un public qui vous acclame, etc. C'est extrêmement plaisant. Je n'ai pas renoncé à ça. Disons qu'avec le temps, on s'habitue à ce succès et puis surtout après, on a envie qu'il soit sur une reconnaissance autre, quoi. Le musicien qui était en moi, il était un peu frustré, donc j'avais besoin d'exprimer des choses un peu différentes, et pour ça il fallait que je m'écarte un peu de cette première influence qui était celle de Claude François.
Il y a une phrase incroyable que vous dites: j'avais pas envie d'écouter mes disques, mes amis qui venaient chez moi, ils n'écoutaient pas mes disques, ils trouvaient que c'était des chansons à Minette. Ils avaient raison.
Oui, c'était ça, parce que c'est des chansons fabriquées. Au départ, c'est des chansons qui étaient prévu pour être présenté et interprété par Claude François. Bon, puis voilà, il m'a fortement incité à les chanter moi-même. Je me suis laissé entraîner avec plaisir.
Ce qu'il a regretté par la suite.
Alors plus tard, il a un peu regretté, mais ça fait partie de sa nature. En même temps, il était paradoxal, plus que moi.
On peut dire que c'était un vrai con quand même.
Oh non.
On écoute le doc, non?
Oh non,
vous avez la tendresse par rapport.
Ah oui, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Oui, c'est un personnage attachant, c'est un personnage qui était beaucoup plus tendre qu'on pouvait l'imaginer. Puis il avait un tel besoin d'exister. Ça relève vraiment d'une forme de psychologie.
Pourquoi Claude François? Dans le doc, on voit bien, vous partez aux États-Unis, vous revenez et vous allez le voir lui.
Écoutez, parce que j'avais décidé d'écrire des chansons et donc le but, c'est qu'elles soient interprétées par les gens
qui
avait le plus de succès, et donc puisqu'on a eu cette possibilité d'approcher Claude François à travers Vin Buggy, qui était son auteur attitré, ça a été une ouverture, et puis Claude a été tout de suite très réceptif à notre travail, et je travaillais à l'époque avec un garçon qui s'appelle Michel Pellet, et donc on a tout de suite intégré ces éditions, et il nous a signé en contrat, ça a été très vite, et donc ça aurait pu être Johnny, ou je ne sais pas, mais c'est tombé sur lui.
Allez, on se retrouve dans un instant, on est avec Alain Chamfort pour parler de ce documentaire, Le Pape de la Pop Chic. Vraiment, ne le manquez pas, c'est passionnant, c'est intéressant, parce que c'est aussi l'histoire d'une époque. Vous avez traversé quand même 50 ans, c'est 50 ans de carrière, 50 ans de chansons, et c'est vraiment très très bien. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300, on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Manu. On est avec Alain Chamfort pour parler de ce qu'il y a.
Moi, j'adore cette chanson.
Bah oui, moi aussi, j'adore cette chanson.
Moi, j'adore Trace de toi aussi.
Bah, il y a un paquet de chansons quand on regarde le documentaire qui vous est consacré ce soir sur France 3. Manu Reva, il y a Bambou, il y a Trace de toi. Et puis, moi, j'adore le dernier album, Micro-Sillon. Je trouve que c'est une chanson, franchement, moi, qui m'a fait pleurer quand je vous ai vu à Taratata, en fait, la chanter avec Juliette Armanet.
Je
trouvais qu'il y avait une émotion incroyable. Mais Manu Reva, je voulais qu'on en parle. Alors, on va pas dévoiler le documentaire. Moi, j'ai appris plein de choses, je vous connais bien. Ouais. Mais j'ai appris plein de choses sur vous et puis sur la chanson. Et Manu Reva, ça devait pas être Manu Reva au départ.
Non, il y a une première. Bon, la musique a été composée dans un premier temps avec la collaboration de Jean-Noël Chaléa. Et puis. À l'époque, on avait déjà fait un album avec Serge, avec Gainsbourg, et donc je lui ai naturellement proposé cette musique. Et voilà, il est revenu vers moi avec un texte qui s'appelait Adieu California. J'étais pas du tout convaincu, mais comme il fallait enregistrer, la maison de disques me mettait la pression et tout, donc j'ai chanté cette version en sachant qu'on passait à côté de quelque chose, et je trouvais vraiment que c'était pas satisfaisant. Donc j'ai continué à essayer d'inciter Serge à se remettre à sa copie. Et puis un coup de chance, parce que le disque était fabriqué, le disque allait sortir. Et vraiment, une extrémiste, il m'a appelé un soir en susurrant Manu Reva. Je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, mais la sonorité paraissait totalement en adéquation avec la mélodie, avec la musique. Et ben après, quand il m'a expliqué que c'était le naufrage d'Alain Colas, etc., là, j'ai eu une petite réserve en disant oui, mais alors c'est un fait divers quand même un peu morbide. Est-ce qu'on ne va pas nous taxer de profiter d'une actualité un peu difficile comme ça? Il m'a dit non, ce sera un hommage, t'inquiète pas et tout. Et puis c'est vrai que le lendemain, il m'a présenté le texte dans son intégralité et j'ai réussi à récupérer l'histoire avec ma maison de disques pour qu'il nous autorise à aller de nouveau faire une prise de voix et mettre la première version au pilon. Voilà,
il a eu l'idée au
cours d'un dîner, parce que Jane Birkin avait été approchée par Riggy Dell et son coéquipier qui prenait le départ d'une course et il demandait à Jane d'être la marraine de leur bateau. Ils pensaient que ça allait leur porter chance et donc ils ont dîner ensemble à cette occasion-là pour se rencontrer et Serge était présent au dîner et ils ont évoqué
la disparition
d'Alain Colas qui avait lieu l'année précédente.
Sandra nous dit avec les artistes de maintenant ça n'existera plus les longues carrières comme ça.
C'est très possible, je sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que les choses sont dans la rapidité. On n'a pas le temps de s'installer, que déjà quelqu'un d'autre vous remplace. Et c'est vrai que souvent, on demande une rentabilité très très rapide. Si c'est pas le cas, les maisons de disques n'insistent pas trop longtemps sur le même artiste. Moi, c'est un peu déplorable, mais c'est comme ça.
Quel regard vous portez sur les émissions comme The Voice ou La Nouvelle Star, où c'est un peu le seul endroit où il y avait évidemment, il y a eu des radio-crochets, des télé-crochets à l'époque.
C'est un peu la continuité de ça, finalement. Dans une époque où c'est plus intense, c'est plus fort, c'est plus inquiétant, parce que les gens sont projetés comme ça, face à une notoriété qui les dépasse. Parce qu'une fois qu'on est sur TF1, 4 fois de suite, à 20h30 le samedi, toute la France vous connaît, quoi, en gros. Donc c'est quand même violent pour ces jeunes artistes, avec beaucoup d'espoir entretenu, comme qu'ils deviennent un jour une star. Enfin, et finalement, il y a très peu d'élus à l'arrivée, donc il y a beaucoup de déceptions. J'imagine, et puis traumatisme, parce qu'on n'en sort pas indemne de choses comme
mais
ça.
C'est un peu pareil qu'à votre époque, non? Il y avait beaucoup de tubes d'un jour, et puis on voyait plus jamais.
Il y a toujours eu ça, mais j'ai l'impression que c'était moins. L'exposition était moins forte et moins violente et moins reprise par l'ensemble des médias, etc.
Oui, parce qu'à l'époque, on avait envie
les réseaux sociaux aussi.
On avait envie d'être chanteur, eux, certains ont envie d'être connus, ce qui est deux choses différentes.
Mais l'époque produit ça aussi. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui a beaucoup de followers a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui fait peut-être des choses plus intéressantes. Vous voyez. Donc, faut vivre avec son époque.
Et alors, justement, dans le documentaire, on voit le moment où la maison de disques rend le contrat à certains chanteurs dont vous. Et on sent qu'il y a eu une meurtrissure, parce que vous avez fait ce fameux clip où vous dites que vous êtes avec les cartons.
Les panneaux, vous cherchez une maison de disques.
Oui. Vous leur avez pardonné?
Écoutez, c'est-à-dire que moi j'ai pardonné aux gens qui sont dans ce système et qui n'ont pas le choix. Ils sont à la tête d'une entreprise qui a beaucoup évolué. Les maisons de disques dans les années 60 étaient entre les mains de gens qui aimaient la musique, qui étaient eux-mêmes artistes. Enfin, il y avait... Après, ça a évolué vers une gestion comme n'importe quelle autre entreprise, avec une obligation de résultat, avec une pression. Eux-mêmes subissent des pressions énormes de la part des actionnaires. Enfin, vous voyez, on est dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Donc, on ne fait pas de cadeaux. Ça marche, on garde. Ça ne marche pas, on évacue. Enfin, voilà, mais c'est la même chose dans les médias, c'est la même chose partout.
Oui, c'est une évolution de la société. Et les prix, oui, Rémi.
Mais ce qui est étonnant, c'est que pour ce clip, vous avez obtenu une victoire de la musique.
Oui,
c'était quand même un pied de nez
parce que je dénonçais
à toute
chose. Et en même temps, je pense que les gens ne sont pas dupes. Les gens qui vivent ces situations, ils savent très bien les reconnaître. Ils savent très bien qu'ils sont dans ce monde-là aussi, qu'on partage tous, et que leur position est très fragile aussi. Moi, le garçon qui a été chargé de faire un plan social, en gros, donc il a viré un tas de gens. C'était des employés du label de disques. Et puis, ils ont rendu certains contrats qui leur paraissaient trop lourds aussi à devoir supporter. Et donc, ils ont rendu des contrats, dont le mien. Moi, je l'ai exploité avec ce clip-là. Mais il y a d'autres artistes qui ont subi la même chose que moi et qui n'ont pas rebondi dessus. Et après, ce garçon qui a fait ça, le travail, il a été viré à son
aussi.
Tour.
Voilà,
donc, c'est comme
et
ça.
Finalement, vous trouvez que c'est un mal pour un bien? C'est-à-dire que vous avez une liberté plus grande.
Alors, ça m'a donné l'occasion pendant cette liberté de jouir de cette liberté et de prendre des risques que on m'aurait jamais accordé si j'avais été dans une maison de disques. J'ai expérimenté des choses. J'ai fait un concert impromptu dans le jardin du Luxembourg. J'ai fait l'Olympia avec des places à 5 euros. Enfin, voilà, je me suis lancé dans un tas de trucs.
Ça oblige à se renouveler, à trouver
bien sûr.
Idées et autre chose.
Absolument, oui, c'est pas négatif.
Mais une phrase que j'ai trouvée formidable dans votre qui termine un peu le doc, c'est le manque de reconnaissance par le plus grand nombre ne me donne pas l'impression d'avoir tort.
Oui, c'est vrai. Écoutez, je pense que la quantité n'est pas forcément la preuve d'un intérêt particulièrement. Je ne sais pas, il y a des auteurs qui ont été méconnus longtemps, des peintres aussi, et leur travail était intéressant, même s'ils n'ont pas été reconnus de leur vivant. C'est pas. Voilà, donc ça dépend quelles courses on fait dans sa vie. Si c'est juste essayer d'être en accord avec soi-même et de faire des choses qui vous correspondent, ou si c'est d'aller vers... Moi, je suis allé vers le plus grand nombre au moment où j'ai fait ces premières...
À vos débuts, c'était les musiques commerciales.
Et j'ai constaté que ce n'était pas totalement satisfaisant. Donc j'ai été beaucoup plus heureux.
Et à quel moment se fait la bascule, en fait? À quel moment vous passez de chanteur à paillettes à chanteur...
Ça a mis du temps, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais je pense que l'association... Et la collaboration avec Serge Gainsbourg a quand même contribué beaucoup, parce que Serge avait quand même une aura. Enfin, il avait une considération à l'égard de Serge qui, s'il acceptait de travailler avec moi, ça donnait le sentiment que je méritais un petit peu mieux.
Vous avez vu qu'il était admiratif, on voit un extrait dans le documentaire.
Oui, j'avais déjà vu ça. C'était une récupération d'une archive.
Mais vous dites en réaction ce qu'on voit ce soir encore une fois dans le documentaire, c'est que vous dites, je pense qu'il savait pas très bien qui j'étais.
Non, mais justement,
c'est curieux. Je trouvais ça bizarre.
C'est le montage qui crée ça. Parce qu'il y a une erreur parce que il savait pas qui j'étais quand je suis allé le trouver.
Ah d'accord, c'est ça. Parce que il dit tellement de bien de vous je me suis dit c'est bizarre.
Ça m'a un petit peu aussi gêné cette réaction parce que elle n'était pas.
Oui, c'est parce que c'était pas logique par rapport à ce que.
Voilà. Mais quand je suis allé le voir pour lui proposer de travailler avec moi, là je sais qu'il me connaissait très peu.
Et c'est Jane en fait qui a fait Jane Birkin qui témoigne et qui raconte.
Oui, c'est ça qui est. Qui avait eu l'occasion de m'observer un peu davantage que lui, parce qu'on se croisait... Serge n'était pas dans la période la plus faste, quand on a travaillé ensemble. Et c'était surtout Jane qui était visible, qui était dans les médias, etc. Et donc, j'avais eu l'occasion de la croiser à plusieurs reprises, et je pense qu'elle a... Elle a su donner quelques informations sur ce que j'étais à Serge, et certainement ça a dû contribuer à ce qu'il accepte de travailler avec moi.
Vous écoutez quoi comme musique?
Vous savez, un peu tout, quoi. Alors évidemment, j'ai eu l'occasion d'accumuler pas mal de choses avec toutes ces années, mais ça soit du jazz, j'écoute beaucoup de choses passées d'ailleurs, parce que c'est des musiques qui font ressurgir pour moi des sentiments, des émotions qui ont été fortes. Donc j'aime bien les retrouver. Et puis dans l'actualité aussi, c'est important d'être curieux.
Vous écoutez du rap quand même ?
Je peux écouter des artistes, des nouveaux artistes de la scène française, Edith Depreto,
Juliette Armanet, bien sûr,
Clara Luciani, toute la nouvelle génération, parce qu'il y a des choses très bien, effectivement.
Vous l'avez vu le documentaire de ce soir ? Vous l'avez visionné ?
Qu'est-ce que
ça fait quand on se voit, quand on voit sa vie racontée ? Quel sentiment ça vous a...
On n'est pas à l'aise, quoi. De toute façon, on n'est pas forcément très à l'aise parce que déjà, on a l'impression qu'on ne ressent que les défauts, quoi. On ne ressent que ce qui nous déplaît en nous, aussi bien physiquement que de la manière dont on s'exprime. Il y a quelque chose d'un peu dérangeant, quoi.
Mais il y a de la nostalgie ou pas quand on voit un peu ces... Il y a des archives, il y a Gérard Louvain, on n'en a pas parlé. Il y a une séquence incroyable. Gérard Louvain, qu'on connaît comme producteur et qui a été chauffeur de Claude François, il y a une scène formidable. À découvrir, mais non, pas de nostalgie.
Non, vous savez, la vie, elle est comme ça. Ce qui est passé est passé. J'ai pas de nostalgie par rapport à ça. Je suis dans le présent. Je suis toujours curieux de savoir ce qui va se passer pour l'avenir, quoi. Enfin, dans ma possibilité de créative, j'entends.
En tout cas, très bel album, Micro-Sillon. On va en écouter un extrait.
L'album s'appelle Le désordre des choses.
Le désordre des choses est une des chansons de l'album.
Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux, le long de mon front. Les aimeras-tu toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond?
Très belle chanson, on joue sur les micro-sillons, les disques, et puis les micro-sillons, les petites rides, voilà. En tout cas, que des compliments de la part de nos auditeurs. Magnifique Alain, il a la classe, donc
écoutez... C'est gentil, ça me fait plaisir.
Voilà, et donc regardez-le. Alors maintenant, on en a parlé hier, le replay, très important, parce que 22h50, parfois c'est un peu tard, mais regardez le documentaire sur Alain Chamfort ce soir, le pape de la pop chic de Laurent Fleischer.
Petit bijou. On se laisse porter.
On se laisse porter. Merci beaucoup Alain Chamfort d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve tout de suite pour le 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors Gilles,
Valérie, vous savez qu'on est en plein débarquement et on est en train de...
Enfin, on n'est pas
célébrer.
En plein débarquement.
C'était il y a seulement
75 ans.
Faites-vous plaisir, allez. Commémoration du débarquement. Voilà, exactement. Et évidemment, il y a eu les vétérans, mais les vétérans aussi américains. Et donc, le magazine Reporter, qui est chaque samedi sur France 4, a décidé...
24.
J'ai dit France 24
sur France 24.
France 24, j'ai dit France 4.
Non, France 24. Et sur Reporter, a été voir ces vétérans américains. C'est diffusé samedi à 22h10. On a téléphoné à Loïc Béhourou, le directeur des magazines de France 24. Et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre.
Alors, ces hommes étaient évidemment très jeunes en 1944, entre 18 et 25 ans. Pour la plupart, ils n'étaient pas sortis des États-Unis, ni même de leur État américain. Et aujourd'hui, 75 ans après, évidemment, ils sont assez vieux. Ils ont plus de 95 ans, même s'ils sont encore très, très vifs d'esprit. Et c'est donc indispensable aujourd'hui de recueillir leurs derniers récits. Ils racontent la peur au ventre, leurs camarades qui tombent à leur côté, l'accueil des populations françaises, enthousiastes. Et aussi, c'est plus rare, l'immense vide qui s'est emparé d'eux à leur retour, la culpabilité d'être vivant. Aujourd'hui, on appelle ça un choc post-traumatique. À l'époque, c'était tout simplement de l'héroïsme.
Alors, donc France 24, à 22h10, samedi. Alors, les pronostics, on va jouer avec le match de foot. Dites-nous, vous aussi, si vous voulez, réagissez sur le Facebook Live. Combien d'autres personnes vont regarder ? Combien de téléspectateurs pour le match de foot ?
Allez, moi, je pense que c'est l'ouverture et tout. Oui, 4,5 millions, moi, je pense.
En dessous des 5 millions. Moi, je dis moins de 5 millions aussi. Mais Patrick Roger a parié beaucoup plus.
Mais c'est pas ça le carton de Rémi qu'on va avoir. C'est Raphaël Nadal contre Federer. Ça va être un énorme carton.
Le match de foot, il se termine et puis on peut juste regarder le documentaire.
Évidemment, sur Alain Chamfort. Absolument. Ouais. Merci à vous. Dans un instant, Gérard Collard arrive avec ses livres. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, comme tous les vendredis. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Bonjour, bonjour Gérard, ça va bien?
Très bien.
T'es en forme aujourd'hui?
Oui, il fait
beau. Que la semaine dernière, tout va bien?
Oui, tout va bien.
Tout va bien. C'est bientôt le Tour de France. Christian Laborde, qui est un grand, grand spécialiste de la petite reine, comme on dit, publie aux éditions du Rocher cet abécédaire du Tour de France, donc du A de Anquetil au Z de Zaf, le B de Louison Bobet. Bref, pour les passionnés du Tour de France, c'est une encyclopédie absolument incontournable. Donc, je crois qu'il y a la fête des pères bientôt. Ouais. C'est incroyable que ça continue de fasciner, d'intéresser.
Alors qu'il y a eu plein de scandales.
Mais ce qui est formidable, c'est qu'au-delà des grands noms que je vous situe, parce que vous allez vous dire, oui, je sais déjà tout sur Anquetil, c'est que ce sont tous les petits mots, plein de petites histoires, de petites anecdotes sur le tour. Par exemple, Machecoul, vous savez, le 4 juillet 88, dans les derniers kilomètres de l'étape Pontchâteau-Machecoul, le puissant coureur canadien Steve Bauer de l'équipe Weilmann s'arrache du peloton qui roule plein pétrole, résiste à son retour, lève les bras et revêt le maillot jaune. Voilà, donc il vous raconte des étapes du Tour de France, il vous donne des petites anecdotes, c'est vraiment pour les passionnés du Tour.
Je trouve que c'est une façon aussi de découvrir l'histoire de France, parce que ça correspond, chaque personnage correspond à une époque et à travers la façon dont il pédalait, c'est le moment de le dire, et dont il parlait et qui considérait le cyclisme, il y a deux choses, il y a des choses complètement différentes. Parce que quand on pense qu'ils se droguaient au vin, les premiers, avec du vin poivré, et que maintenant, je ne vous dis pas avec quoi ils cèdent un peu à monter, c'est vraiment une époque, une description de notre société.
Une description de la société, il y a même assez, il y a cadavres. Alors, je ne vous en dis pas plus, vous allez Tom découvrir Simpson, oui. Le Tour. Et Christian Laborde, évidemment, il fait du vélo. Le Tour de France, c'est aux éditions du Rocher.
Michel Drucker, c'est une nouveau.
Oui, voilà.
Alors, Alice. Ça change des polars que je vous fais d'habitude, où c'est Destroy et tout. Là, c'est tout en psychologie. C'est aux éditions, c'est une bonne collection, c'est les éditions Préludes. Ouais. Alors, Alice, c'est une petite fille. Hein, on est dans une kermesse, il y a la maman, elle la confie à une de ses amies.
Le truc, le cauchemar de tout parent.
Voilà. Vrai. Hein. Et donc, elle la confie à une amie, et tout se passe bien, et puis tout d'un coup, la petite fille disparaît.
Voilà, le cauchemar.
Et là,
de
c'est l'enfer, parents. C'est-à-dire que la mère en veut absolument, mais alors vraiment à mort, c'est le moment de le dire
à cette amie.
Alors, qu'est-ce qui est devenu cette petite fille? Parce qu'on ne la retrouve pas. Et alors, toutes les deux sont convoquées par la police. Et là, vous allez voir que tout n'est pas si simple que ça. Quoi. Je veux dire, le père, je ne vous dis pas ce qu'il en pense aussi. C'est une. Alors, j'en ai tellement lu là-dessus, mais en fin de compte, elle arrive à tirer son épingle du jeu. C'est psychologiquement insupportable, parce que c'est vraiment la hantise de tout le monde. C'est-à-dire que vous vous dites, ça va arriver, mais il ne faut pas. Faut presque pas que. Voilà.
Et c'est impossible de trouver la fin. C'est la réussite des bons polars.
Ouais, là, la fin est absolument extraordinaire. Et puis, c'est deux versions de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que vous pensez que vous avez trouvé, les policiers n'ont pas trouvé, mais est-ce que ce que vous avez trouvé est bon et est-ce qu'ils vont trouver? Et ces deux femmes incroyables, franchement, psychologiquement, si vous avez marre des trucs glauques avec du sang qui coule partout, de la.
C'est bien. Alice de Heidi Perks, P-E-R-K-S, et c'est aux éditions Prélude.
Je crois que c'est encore pire que les trucs glauques. C'est absolument. Il y a juste, je pourrais signaler, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on reviendra dessus parce que c'est un auteur exceptionnel. C'est Harold Cobert qui a fait la suite de Belle Amie. C'est aux éditions Les Escales. Et j'étais très, très sceptique, hein, parce que suites, c'est comme Autant d'emplacement, c'est généralement de la daube. Et là, j'ai l'impression que Maupassant, il est revenu, mais tout en gardant cette petite touche qui fait la caractéristique de Cobert. Et vous allez voir comment c'est la revanche des femmes, parce que Bellamy, en fin il se sert des femmes max. Et alors, c'est un portrait aussi de la corruption au 19e siècle, de la façon dont on sert des gens, comment les hommes se servent des femmes, l'hypocrisie au niveau politique, la langue de bois, comment les. Il y a aussi le scandale de Panama avec. De l'Essex et tout ça, c'est vraiment une pure merveille. Il y a un suspense incroyable et vous voulez savoir qui est cette femme qui va faire tomber peut-être Belle Amie.
Ça s'appelle
Ça s'appelle Belle Amie.
Belle Amie aussi.
Oui, mais avec B-E-2-L-E. Et alors ce type, est au niveau du style, est surdoué. Et vous savez, c'est celui qui avait fait La Mésange et l'Ogresse, c'était
sur l'affaire Fourniret.
Sur cette femme. Et là, il dépiote, c'est le moment de dire, il dissèque vraiment la lame de cette femme pour essayer de comprendre si elle est complice, victime ou pas. C'était un chef-d'œuvre de psychologie. Et moi, ce livre m'avait marqué, mais c'était incroyable. Il a fait plein de choses. Hein, je crois que c'est Un été avec Baudelaire.
Il a fait pas mal de livres.
C'est vraiment un grand auteur.
Donc là, ça s'appelle Belle Amie, B-E-2-L-E. ami Harold Cobert, C-O-B-E-R-T, donc c'était évidemment...
Ah ouais, allez-y, parce que c'est un des plus beaux styles français, c'est un type intéressant, ça change un peu de ce conformisme ambiant qu'il y a en ce moment où on lit toujours la même histoire, puis il est brillant, hein, il est cultivé, brillant, il se la pète pas, et en plus pour les filles, il est relativement beau, donc si ça peut l'aider à vendre ses bouquins qui sont d'une grande qualité, voilà.
Frères et sœurs de pouvoir, alors c'est une enquête, un essai de Katia Chapoutier, qui est une amie, mais au-delà d'être une amie, je le dis par honnêteté, mais c'est un livre passionnant parce qu'elle est allée interroger des gens célèbres et leurs frères et sœurs. Donc il y a la famille Oliven, donc Denis Oliven, il y a Julien Clerc et ses 5 frères et sœurs, il y a pas mal de il y a les sœurs Caudalie, il y a des gens plus ou moins connus, Apollonia Poilane et sa sœur, et donc c'est le rapport de la célébrité de l'une ou de l'un par rapport aux autres, ce qu'ils ont partagé, ce qu'ils ont hérité de leurs parents, comment ils ont évolué, Bernard et Jacques Attali, les frères Pourcel, bref, il y a toute une galerie de portraits. Moi, j'aime bien ces livres. On rentre dans l'intimité des familles. C'est assez réussi. Frères et sœurs de pouvoir. Katia Chapoutier aux éditions Le Duc.
C'est juste pour vous rappeler, c'est vous qui me l'aviez fait découvrir. C'est le cahier de recettes de Jackie.
Oui, Jackie Durand.
Oui,
qui était c'est chouette.
Et
ça.
Je trouve qu'il y a un peu de dormesson dans cette espèce de joie de vivre.
Sur le côté un peu léger.
Oui, absolument. Avec cet amour de la vie et tout. Allez-y, c'est un pur petite merveille ce livre.
Alors, toute autre chose, Jules Gassot, La nuit ne dure pas. Alors, Jules Gassot, il a déjà écrit 4 livres, il est très jeune, je crois qu'il a 30 ans, mais alors il a une maturité incroyable. Si vous aimez les histoires de famille, les non-dits, alors lui, son personnage a 40 ans, il vient de se faire larguer par sa copine, il n'est pas dans une forme éblouissante, c'est Noël, sa mère lui dit, viens passer Noël, sa mère, elle n'est pas très sympa. Et puis sa sœur, qui elle, a 3 enfants, une vie parfaite, une maison à Méribel.
Oh là, c'est bizarre ça.
Dit, venez nous rejoindre. Non, il n'y a pas de polar. Non, mais c'est donc une Noël en famille, avec tout ce que ça comporte. Mais ce qui est bien, c'est son écriture à Jules Gassot qui est très... il a beaucoup d'ironie, en fait, sur les choses, beaucoup de cynisme sur les personnages qui sont envahissants, qui arrivent, les gens qui sont sur deux. Et puis, c'est surtout une réflexion sur l'usure du couple. Est-ce qu'un couple peut durer toujours? Comment ne pas passer à côté de sa vie? Beaucoup de thèmes de réflexion, mais c'est surtout cette famille avec, quand on aime ce genre de livre où il y a des rebondissements, des histoires qui arrivent là-dessus. Donc, je trouve que le titre est très beau. La nuit ne dure jamais. Mais Jules Gassot, c'est aux éditions Rivage.
Il y a une nouvelle école française comme ça, par exemple, où il y a Florent Loiseau qui a fait Paris-Venise aux éditions en pocket, qui sont des petites merveilles comme ça. Il y a du recul, mais de l'humour.
Oui, il y a beaucoup de pessimisme. Moi, j'aime bien parce que c'est à la fois pessimiste, mais en même temps assez lucide et réaliste sur la vie.
Et il cache cette pessimisme derrière l'humour, souvent, et le recul et tout. Ça. Mais quand on y pense vraiment,
et on se demande comment un garçon aussi jeune a autant à ce regard aussi lucide sur la vie. Et puis un coup de cœur à la Pléiade quand même qui sort un coffret Romain Gary, les œuvres complètes de Romain Gary.
Moi je trouve que c'est une super belle revanche, magnifique. Parce que cet homme qui a été méprisé, on dirait qu'il était populaire et tout, et puis tous ces gens qui le traitaient de sous-écrivain et tout, eux on n'en parle plus, ils n'existent plus, mais par contre lui c'est toujours le plaisir des lecteurs. Et puis on a découvert que derrière cet homme, derrière ces romans qui soi-disant étaient populaires, il y a vraiment beaucoup de choses. Puis j'adore. Attends, le type, il a été résistant, il a aimé les plus belles femmes du monde, il était diplomate.
Bon, ça s'est mal fini, mais ses livres sont magnifiques. Enfin, La Promesse de l'Aube, et puis ce qu'il a écrit sous le nom d'Émile Ajar, Gros câlin.
Et puis ça, moi, je trouve que ça n'a pas pris une ride.
Non.
Et puis cet homme qui décide de garder la mainmise sur son destin et qui se supprime à la fin en disant, faut que ça cesse, c'est là que ça s'arrête. Je trouve que c'est un très. Alors allez-y, là, c'est le coffret Pléiade est exceptionnel et pour moi, c'est un des grands écrivains du XXe siècle.
Et c'est justice qui lui est rendue.
Oui, c'est une sacrée revanche.
La Pléiade, c'est vrai que c'est la collection de référence, mais ça veut dire qu'il fait partie du patrimoine littéraire
absolument
français.
Absolument, je trouve que c'est vraiment une très belle chose.
Et puis n'oubliez pas le livre de Guy Carlier, on l'a reçu dans l'émission Média.
Oui.
C'est un très beau livre, moins 125. Il raconte comment il a perdu 125 kilos, il pesait 250 kilos. Il a une plume formidable, même si vous vous dites, oui, l'histoire ne m'intéresse pas, si, parce qu'il est drôle et lui aussi, il arrive à faire passer. Alors, il y a des moments qui sont assez durs, mais il y a toujours un éclat de rire derrière, parce qu'il a une façon de raconter les choses avec un regard, lui aussi, d'une lucidité. Franchement, moi, j'ai pris un plaisir fou à lire ce livre. Et il dit, je suis passé du statut de gros à vieux, parce qu'il était gros, et maintenant, il a près de 70 ans, et il est vieux. Et, ouais. Et franchement,
j'aime bien ce que vous avez raconté sur la préface, quand il
raconte. Oui, il dit, bon, les préfaces, ça sert à rien. En général, les gens ne les lisent pas, parce que c'est toujours écrit par Jean-Claude Carrière, et il raconte comment les éditeurs se disent, bon, tiens, à qui on pourrait demander une préface? Tiens, Jean-Claude Carrière, on va l'appeler. Et il vous répond en général, non, là, je suis avec le Dalai Lama, je pars voir Obama, mais bon, pour vous, je peux faire une exception. Bon, c'est assez méchant. Il est assez méchant.
Ah oui, j'adore.
Il est méchant, il a le regard qu'il faut et qui est très bien. Donc, c'est co-écrit, enfin, c'est une grande partie qui est écrite par lui, et derrière, Jean-Michel Cohen, qui parle de l'obésité, puis de leur rencontre, parce que Carlier a voulu lui rendre hommage en racontant leur rencontre et comment le déclic s'est fait, parce qu'il raconte ses humiliations, comment des femmes l'aimaient, des femmes sont tombées amoureuses de lui, mais lui ne s'aimait tellement pas que il a tout fait pour les rejeter. Donc ça s'appelle -125, Guy Carlier, c'est aux éditions du Cherche Midi, et c'est vraiment un très très beau livre. Merci beaucoup, merci Gérard, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité.